R22 Tout Monde, antenne Béton Salon.
Arrivé en fait en entendant en fond sonore un raga qui était une très bonne manière d'introduire, je pense, cet après-midi d'écoute. Un raga de Pandit Pranath qui est aussi un peu le début de mes échanges, coïncide avec le début de mes échanges avec les étudiants de l'École des Beaux-Arts de Toulon, avec qui j'ai beaucoup dialogué cette semaine par email. Donc, il m'a été proposé de réfléchir à une sélection de morceaux pouvant parler d'hybridité, d'ambivalence. Et j'avoue que c'est un choix assez paradoxal, à première vue, que d'avoir passé un raga de Pandit Pranath, donc, qui est un chanteur nord-indien, hindoustani, issu d'une école musicale Garana, qu'on appelle le Kirana, qui est vraisemblablement l'école musicale indienne la plus prestigieuse, parce que supposément la plus pure, authentique, descendante d'une tradition ancestrale, orale, qui se fait par une transmission de maître à disciple depuis des siècles et des siècles. Pandit Pranath donc pourrait paraître paradoxal comme choix musical pour parler de l'hybridité, dans la mesure justement où il incarne une forme de pureté. Mais Pandit Pranath est une figure aussi très intéressante pour ce que Pandit Pranath, en fait, après avoir été dans les années 20-30 célébré pour les valeurs qu'il incarnait et le degré de mysticisme qu'il a apporté et, dans l'interprétation du raga, Pandit Pranath s'est aussi retrouvé ostracisé en Inde après l'indépendance en 1947, puisque sa musique désormais ne connaît plus avec la vitrine de modernité qu'entendait insuffler les nationalistes indiens qui avaient pris le pouvoir. C'est-à-dire que cette musique, Kirana, incarnait tout ce que les modernes indiens ne souhaitaient plus entendre et mettre en avant, puisque relevant d'une supposée de temps obscurs et médiévaux indiens. Il se trouve que Pandit Pranath, au moment même où il perd son poste d'enseignement à Delhi, n'enregistre plus la radio, n'a plus accès à des moyens de diffusion de sa musique, part s'exiler aux États-Unis, où il va devenir le vecteur, le porte-parole de cette école auprès de l'avant-garde musicale new-yorkaise. Puisque parmi ses disciples, on va trouver Henry Flint, Lamonté Young, Terry Riley, pour ne parler des plus célèbres. Et c'est dans le New York Loft Fluxus minimaliste des années 60-70 que la musique de Pandit Pranath va trouver une chambre d'écho formidable jusqu'à sa mort en 96. Donc ce qu'on vient d'entendre, c'est un raga Bhupali, qui est un raga du soir, puisque les ragas initialement sont interprétés à certaines heures spécifiques de la journée, à l'aube, à l'aurore. Celui-ci est un raga du soir que Pandit Pranath n'interprétait que le soir, contrairement à ce qu'une pratique musicale indienne qui s'est infléchie après l'indépendance met en avant, puisque des ragas du soir sont joués le matin, des ragas du matin sont joués le soir. Le bhupali est un raga, une des cinq formes de raga les plus anciennes, en fait. C'est ce que l'on vient d'entendre est une forme musicale née il y a 4000 ans. C'est un raga très méditatif, lent, assez sombre, mélancolique, introspectif, construit sur une gamme pentatonique, donc sur cinq notes. Seules cinq notes sont chantées, selon des modes ascendant et descendant. Et donc la voix de Pandipranath ne fait que chanter les notes qu'il chante. Il n'y a pas de texte, de poème, comme dans certains ragas, certains segments, sections de raga. Là, ce que l'on entendait, c'est uniquement les notes qu'il chantait. Et plus spécifiquement, ce disque, donc Off Groove, est le premier enregistrement connu de Pandipranath. Il est sorti en 68 sur un label new-yorkais, Douglas, donc 2 ans avant son arrivée et son installation effective à New York, et ça en son immixtion avec l'avant-garde musicale. Donc je vais tout de suite enchaîner, je vais arrêter de parler, avec une figure que je viens de mentionner, Henry Flint. Dont il s'agit également du seul enregistrement vinyle. Il y a un certain nombre d'enregistrements CD qui sont apparus ces 15 dernières années de Flint. Donc Flint est également un compositeur donc associé à la scène Fluxus, Loft de New York. Il fait ses études avec Tony Conrad, participe à ses premiers concerts en Loft aux côtés de Yoko Ono devant Cage, aux côtés de Lamont & Young. Avec qui il va jouer, avec John Cale, Terry Riley, Angus MacLise. La différence, c'est que Flint, lorsqu'il joue la première fois devant Cage, Cage vient le voir, intrigué par ce qu'il vient d'entendre, et il lui fait parler de ses influences. Et Flint, en fait, cite Bo Diddley, un des pères du rock, ce qui fait bondir Cage, ou même pas bondir, en fait, parce que Cage ne voit pas qui est Bo Diddley. Il ne comprend pas, en fait, cette influence noire américaine populaire, rock, que peut faire valoir Henry Flint. Il se trouve que Flint vient de Virginie. Il a grandi en fait donc dans les Appalaches en écoutant beaucoup de musique hillbilly, qui est une musique vernaculaire des Appalaches, assez méprisée de cette clique avant-garde. Et Flint va très rapidement se trouver en porte-à-faux avec toute cette faune et va décider de construire son propre vocabulaire musical, tirer des leçons qu'il aura prises auprès de Pandipranath, de Lamont & Young également, ses études de mathématiques, comme aux côtés de Tony Conrad, et va essayer de renouer avec cette culture vernaculaire qui a été tue, cachée, méprisée, pour essayer de faire une espèce de avant-garde hillbilly, c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc c'est une musique qui n'a eu aucun écho. Il en a joué à partir de la moitié des années 60, avec pour batteur Walter de Maria, parce que Walter de Maria était batteur initialement, avant d'être peintre. Et on a quelques enregistrements conservés de cette musique qui n'intéressaient personne, c'est-à-dire ni folkways, on va dire, qui auraient pu être intéressés par une espèce de réactualisation de musique vernaculaire. C'était trop bizarre pour être associé au catalogue de folkways, et c'était trop redneck pour être entendu dans la scène des lofts. Donc Flint va se retrouver dans un endroit assez intrigant de non-écoute, une espèce de ventre, qui va durer pendant une quinzaine, vingtaine d'années. Donc ce que je vais vous faire passer, c'est un morceau qui s'appelle le Portrait, qui est enregistré un peu plus tardivement, en 75 environ. Les dates ne sont pas précises avec Flint. Attendez, je me concentre. Flint est par ailleurs assez intéressant, je ne sais pas si la figure de Flint vous est familière, mais en plus d'être un musicien, c'est aussi d'abord et avant tout un théoricien de l'art, un historien de l'art, qui est le père de l'art concept, qui précède l'art conceptuel. Thank you. voilà, pour Henry Flint, il s'agissait du portrait d'une femme. C'est comme ça qu'il décrit son morceau. Flint a, parmi ses nombreux écrits philosophiques, relatifs à l'histoire de l'art, d'économie également, dans quelques textes musicaux, a notamment exprimé ses réticences à se conformer à un héritage, ou en tout cas prendre en charge un héritage musical qui serait européen, en gros passer par la case France ou Allemagne, pour faire une musique moderne. Mais bien avant lui, je parle de ça parce que je voudrais enchaîner sur Henry Cowell, qui est un autre compositeur américain plus vieux, puisque Cowell meurt en 65. Cowell a également posé ces questions-là dès les années 20. Je vais vous passer un morceau pour piano, datant de 1922. Un morceau de Cowell pour piano, resté inédit jusqu'à la parution du vinyle qui vient. Un vinyle qui a été publié par Folkways en 62, donc 2-3 ans avant la mort de Cowell. Donc, Cowell était un compositeur américain, basé à San Francisco. Voilà. Un pianiste, d'abord et avant tout. À qui l'on doit notamment, même si l'on n'a jamais revendiqué la paternité, cette technique de cluster, de grappe de notes, qu'il frappait du poing sur le piano. Cowell, en fait, a grandi dans une famille pauvre, sans accès à la culture savante. Donc, son exposition à la musique classique européenne est pour le moins limitée. Je crois qu'il est allé une fois dans un concert adolescent. Mais ce qu'il avait avant tout, ce à quoi il avait avant tout accès, c'était les musiques Midwest et que chantaient ses parents à la maison, et les musiques irlandaises dont il était un descendant lointain. Si bien que pour lui, l'option passer par la case Europe, c'était une option parmi plein d'autres lorsqu'il s'agit pour lui de commencer à composer alors qu'il avait 11 ans. Et surtout, entre-temps, il avait eu accès à des enregistrements par un voisin de musique indonésienne, indienne, japonaise. Et ça a été pour lui une révélation que de découvrir les gammes modales qui avaient été négligées par l'Occident. Cowell est vraiment une figure intéressante parce qu'il a sûrement décomplexé un certain nombre de compositeurs non-occidentaux, africains, asiatiques, qui ont pu suivre son chemin en ce sens que pour créer une musique moderne, sérieuse. Il n'était pas nécessaire de prendre en charge cet héritage loin d'être universel, loin de parler à tout le monde. Cowell donc l'a fait en ouvrant sa musique de manière totalement équivalente et indiscriminée aux musiques irlandaises. Ce que je vais vous passer, c'est quelque chose inspiré d'une mythologie irlandaise, le mythe de Angus. Mais sa musique a été aussi énormément colorée par son exposition aux musiques donc sud-est asiatiques essentiellement. Donc, je vais vous passer un morceau qui s'appelle Trumpet of Angus, qui est très bref, hein, je vous rassure. n'est pas le seul à cette époque à s'intéresser à ces cultures non occidentales ou populaires et les prendre, les incorporer dans son travail. Britten, Benjamin Britten, au même moment, s'intéresse beaucoup au gamelan indonésien, donc on est dans les années 30. Plus tard, après Cowell, on peut citer encore Cornelius Cardew, par exemple, compositeur britannique marxiste, compositeur, auteur de treatises, qui s'intéresse aux musiques maoïstes, révolutionnaires irlandaises, qui va renoncer à l'avant-garde un temps pour embrasser tout ce répertoire populaire. Inversement, ça m'amène au prochain morceau, des compositeurs, en l'espèce afro-américains, Alice Coltrane, donc la femme, la veuve de John Coltrane, ont fait le chemin inverse et pris en charge une musique qui n'était pas issue de leur prétendument, en tout cas héritage, en l'occurrence Stravinsky. Je dis à l'inverse parce que j'ai beaucoup pensé ces derniers temps à Nina Simone, que vous connaissez tous, mais qui me touche toujours particulièrement pour cette espèce de blessure originelle qu'elle n'a jamais su guérir, qui est son refus donc, de rentrer à l'Académie de musique de Philadelphie, où elle voulait devenir pianiste classique, ce qui aurait fait d'elle la première pianiste classique noire, femme, américaine. Ça lui a été refusé, et elle a fait du jazz, la musique du diable, selon sa mère. Et, ce qui ne l'a pas empêché de faire une musique qui ne soit pas une musique de noir, comme on aurait bien voulu lui assigner comme place, et elle a fait autre chose. Mais Alice Coltrane, je me suis souvenu de ça hier soir, en préparant un peu la séance. Alice Coltrane, elle, à la mort de John Coltrane, s'est beaucoup intéressée à la figure de Stravinsky, ce qui lui a été beaucoup reproché par les puristes. Mais elle a osé réincorporer la musique de Stravinsky, réarranger Stravinsky dans sa propre approche du free jazz. Je vais vous faire écouter le premier morceau, la première instance de fusion, confrontation entre l'univers de Stravinsky et celui d'Alice Coltrane. Donc on est en 72. Elle réenregistre un extrait de L'Oiseau de Feu, Stravinsky. On est en 72, elle le fait à peine quelques mois après avoir rencontré pour la première fois Stravinsky chez elle. Stravinsky, il y a toute une anecdote qu'elle explique où Stravinsky vient avec une flasque d'alcool qu'il lui laisse en héritage, lui disant cette flasque aurait dû être pour ta grand-mère, mais en fait je l'ai conservée pour toi. En hommage donc à Stravinsky, voici ce que Alice Coltrane en fait.
Thank you.
Je sais moi-même pas trop comment qualifier la musique d'Alice Coltrane à ce stade, en fait. Elle est dépassée bien, bien au-delà du mur circonscrivant le périmètre du free jazz pour embrasser dans une approche cosmique, spirituelle, un héritage qu'elle considère comme universel. La musique de Stravinsky lui a été présentée la première fois par John Coltrane comme la musique d'un compositeur universel. Pour faire le lien avec un autre compositeur, autre époque, autre continent, autre culture, et qui lui-même a très souvent dans son répertoire fait des liens avec la musique sérieuse, savante, je voudrais parler de Julius von Bergeyck, qui malheureusement, je dis vraiment malheureusement, n'est vraiment pas connu. C'est un peu scandaleux. Julius von Bergeyck est un compositeur tout à fait en vie, donc néerlandais, qui enseigne encore, me semble-t-il, à la Haye, à l'Académie de la Haye. C'est l'élève de Ralph Richmakers, pardon. Bergeyck a souvent utilisé des morceaux de répertoire bien repérés, connus de tout mélomane, pour les déconstruire, les amener ailleurs par le biais de l'électronique essentiellement, selon des modes de déconstruction assez clairs, en fait, qui rendent assez compréhensible le mode opératoire qui est le sien, pour décentrer ce répertoire qui soit de Schubert, de Bach, de Haydn, mais il a aussi fait des déconstructions de pièces de Thelonious Monk, par exemple. Le morceau que je voudrais vous faire écouter, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir vous faire écouter intégralement, mais il est un peu long, s'appelle La jeune fille et la mort, qui est tiré de la pièce de Schubert, du morceau de Schubert, donc qui est construit en trois parties, donc la jeune fille, la vie, premier mouvement, deuxième mouvement, la rencontre, le jeu de séduction, le passage, la modulation de la vie vers la mort, et la troisième partie, la mort. Bergeyck en a donc proposé une réinterprétation pour instruments et électronique. Je précise que Bergeyck encore aujourd'hui n'utilise que de l'analogique, jamais de digital, donc il travaille que sur bandes, ciseaux et scotch. Ce que je vais vous faire écouter, c'est le troisième mouvement qui dure 10 minutes, donc le mouvement de la mort, qui est donc un mouvement pour orgue, voix, je crois, et électronique. Vous verrez en fait que vous entendrez, comprendrez que ce que l'organiste joue commande, l'orgue en fait est relié, branché à une installation électronique, si bien que toutes les notes jouées sur l'orgue par l'homme sont envoyées, les signaux sont envoyés vers l'électronique qui vient à son tour, comme par une rétroaction, venir perturber, parasiter et lentement démolir ce que fait l'instrumentiste. Vous verrez, en fait, c'est souvent des processus graduels chez Bergeyck où on ne comprend pas trop ce qui se passe au départ. Une chanteuse, soprano, chante sur une mélodie ou piano. Et lentement, on passe de la tonalité vers la tonalité. Là, c'est ce qui va se passer sur ce morceau. Et c'est vraiment scandaleux qu'il ne soit pas connu.
Thank you.
Je vais passer à quelque chose qui n'a rien à voir, sinon le fait que, de manière coïncidente, c'est juste d'une musique qui a été faite la même année, en 81. Une musique japonaise, mais qui en fait n'a rien de japonais. Il s'agit d'un groupe qui s'appelle Nkwaju. C'est un ensemble de percussionnistes. Ils étaient trois à la base. Ils n'ont fait que deux disques, celui-ci et un autre qui s'appelle Nkwaju Ensemble, à 6 mois d'intervalle, en 81. Nkwaju, en fait, c'est un mot swahili qui signifie tamarin, qui est le bois, qui était l'essence de bois qui était utilisée pour la fabrication des marimbas et des maillets. Et on comprend d'où vient le nom quand on découvre la musique de cet ensemble, qui ne travaille que sur des marimbas, des vibraphones, des maillets, à une musique polyrythmique qui renvoie à la tradition de la polyrythmie du contrepoint dans les musiques africaines, où le rythme désigne ou incarne aussi cette relation à l'autre, embodies l'ensemble des interactions humaines. Kwaju donc a introduit au Japon pour la première fois une musique qui était purement polyrythmique, pas construite sur des lignes mélodiques. On n'avait jamais fait ça avant, on n'a jamais fait ça après, je pense. Je vais vous faire écouter un morceau, vous verrez, c'est très étonnant. Donc c'est un ensemble de percussions, mais aussi il y a un synthétiseur qui est planqué derrière. C'est extrêmement beau. On peine à identifier et l'époque et l'ère géographique où cette musique a été faite et d'où elle vient. Thank you. Alors, je vais encore faire un saut de puce géographique, parce qu'on va passer au Cameroun. Très bien. Donc, on va aller au Cameroun, toujours en 82. Faire la connaissance de Francis Bébé, donc qui était un musicien, formation de guitare classique, par ailleurs journaliste, fonctionnaire international. Il a beaucoup voyagé. Et c'est sans doute en voyageant beaucoup qu'il a découvert d'autres instruments que ceux pour lesquels il est connu à la base, qui est la mbira, M-B-I-R-A, donc outre la guitare classique, qui est ce piano à pouce, qui l'a rendu assez célèbre, populaire. Mais Bébé, en fait, a découvert l'électronique. S'est acheté des boîtes à rythme, des claviers électroniques, des synthés, des orgues dans les années 70. A commencé en fait à expérimenter un home studio chez lui à partir de 75 et a commencé à accumuler du matériel très très étonnant dont je vais vous passer un extrait qui s'appelle Pygmy Love Song, une chanson d'amour pygmé qui date donc de 82. Je vais terminer en fait par un dernier échantillon que je vais faire un peu durer, et qui va reboucler avec toute cette semaine d'échanges avec les étudiants, puisque je vais vous passer un collectif. Je vais essayer d'en parler très bien, puisque l'un des membres est là, dans la salle. C'est un collectif qui s'appelle Toad. Ils sont trois, pour le coup. Ils appartiennent à ce collectif plus large qui s'appelle la Nov, qui jouait pour un groupe de ce collectif lundi soir dans un petit endroit à Paris, et où donc les étudiants de l'école sont venus, ont eu la gentillesse de venir voir et découvrir cette musique. Toad est donc un trio, via la roue, guitare, lap steel, cornemuse. Il s'agit de chansons, enfin pas de chansons, de morceaux là, puisqu'il ne s'est pas chanté, issu de collectage des Monts d'Auvergne, Limousin. Donc, je crois que ce n'est pas spécifiquement l'air régional qui a été entendu et réinterprété lundi dernier. Limousin, Auvergne, ici. Donc ce qu'on va entendre en fait sont donc, des morceaux collectés. Pour certains d'entre eux l'ont été dans les années 50, 60, par des ethnomusicologues. Des gens qui sont intéressés, qui sont venus à la manière d'un Lanomax dans ces régions de Cantal, les Cévennes, l'Auvergne, les Pays de Loire. Donc enregistrer ces chansons traditionnelles, ces morceaux traditionnels, qui ont continué de faire l'objet d'interprétations, puisque c'est toujours évidemment une culture vivante, mais qui a aussi connu des mutations, des modulations, qui font qu'on s'est peut-être éloigné peut-être de la manière dont ces musiques pouvaient être jouées initialement, originellement. On a peut-être perdu de la richesse dans la dynamique des instruments tels qu'on pouvait les jouer. Est-ce que ces musiques-là, en fait, ne sont pas jouées de manière peut-être un peu plus courte qu'elles ne l'étaient avant ? Où est partie cette notion de répétition, pour ne pas employer le mot de transe ? En tout cas, c'est ce que ces musiciens, donc en l'occurrence Pierre-Vincent Fortunier, Guylaine Lacroux et Yann Gourdon, sur ce projet Toad, essaient de réactualiser, de refaire entendre. Donc je vais vous passer une face ou un extrait de face de ce vinyle où l'on entendra quatre morceaux. Mon père, Malokada, bourré de l'arabe, bourré de mouret et marche de noces de l'arabe. Je répète, il s'agit de musique traditionnelle française. Merci.
On va transitionner, mais s'il y a quelques questions à poser à Maxime avant qu'on passe à l'intervention des artistes encore étudiants ou récemment diplômés de l'école d'art de Toulon. Voilà, de temps qu'on fasse un petit changement de plateau, n'hésitez pas.
Je vous écoute. Je devrais juste peut-être préciser, pour conclure vraiment sur la NOV, dont je suis vraiment un ardent défenseur. C'est donc ce collectif de musiciens français qui, à mon avis, se trouve à un endroit en France musicalement où les choses se passent aujourd'hui, où les lignes bougent. Je pense que c'est vraiment là que ça se passe. Je pense qu'ils sont dans une démarche qui n'est pas si éloignée de ce que l'on a pu entendre de Henry Flint il y a 30 ans, avec son avant-garde Hillbilly, cette espèce de tentative de réconciliation entre avant-garde et répertoire vernaculaire. Je pense que c'est vraiment un endroit où se jouent les choses aujourd'hui, à mon sens. Ah bon.